Au 01 45 24 7000, Nadine nous appelle de Saint-Brieuc. Bonjour Nadine. Allô, allô.
Bonjour à tous. Je suis contente que vous parliez de Tintin.
Ah bah.
Parce que c'est mon fils a toute la collection et puis on a toujours parlé de lui. Mais c'était pour vous raconter une petite anecdote concernant des petits-enfants que j'installais dans une voiture. Bon, je suis une grand-mère de 76 ans. Et en les installant, j'ai dit un gros mot. Hein. J'ai dû dire merdoum ou je sais plus quoi. Enfin, toujours est-il qu'ils m'ont dit « Oh là là, Nadine, tu dis des gros mots. » Alors je leur ai dit « Ben, vous savez pas, pendant que vos parents sont partis, je vais vous apprendre des gros mots. » Donc je leur ai appris « Sacrebleu, saperlipopette, tonnerre de Brest. » Et ils ont trouvé ça formidable. Et on en a toujours parlé, c'est resté. Et moi, je dis plus certains gros mots parce que je me sers de sacrebleu, saperlipopette, etc., etc.
Très bien. Et moule à gaufre et tout ça, non, pas...
Non, je suis pas allée jusque-là parce que j'ai pas assez de mémoire. Mais j'ai toujours trouvé ça mignon de dire saperlipopette ou sacrebleu. Je trouve que ce sont des mots extraordinaires.
Merci
et
Nadine.
On pourrait faire une belle dictée aux enfants dans les écoles avec tout ça.
Merci Nadine de nous avoir appelé. Albert Algou, vous êtes l'un des spécialistes, des exégètes des insultes du capitaine Haddock.
Justement, quand j'étais prof, moi, ce qui m'a ramené à Tintin, c'est les jurons du capitaine Haddock. Et effectivement, je m'en servais pédagogiquement, si l'on peut dire. Pardon, mais mes élèves de 6e, 5e, je leur donnais 10 jurons du capitaine Haddock. Puis je leur disais, racontez-moi une histoire avec. Et alors, d'abord, il fallait qu'ils trouvent le sens, et puis ils étaient enchantés. Et c'est comme ça qu'est né le dictionnaire, le petit Haddock illustré, qui est mon grand classique.
Benoît Peters, biographe d'Hergé. Est-ce que vous savez d'où ça vient? Comment Hergé a forgé dans son esprit, dans son écriture, ses jurons
Alors, il disait avoir entendu un jour sur un marché, une marchande des quatre saisons lancée à une cliente insatisfaite, espèce de pacte à quatre. Il avait trouvé, bon, le pacte à quatre était une alliance de l'époque, aujourd'hui bien oubliée, oui. Mais ça lui avait semblé d'une force extraordinaire. C'est une manière de manier la violence verbale, oui. Sans choquer, sans heurter, sans attirer de lettres de protestation. Et donc Haddock a utilisé énormément de mots, beaucoup de figures de rhétorique par exemple. Catacrèse, mais aussi des animaux rares, l'orictérope, tchouk-tchouk-nougar, c'est une inventivité verbale. L'invention verbale, on l'oublie quelquefois, elle est partout chez Hergé. Elle est dans les pataquès constants des Dupont. Elle est dans les erreurs générées par la surdité de Tournesol. Elle est dans la rhétorique petite bourgeoise affolée de Séraphin Lampion. Partout, on trouve de l'invention. Hergé n'aurait été qu'écrivain, il aurait été un excellent écrivain. Le problème, c'est qu'il a aussi été un excellent dessinateur, un excellent narrateur. Il a à peu près toutes les qualités qu'on peut rêver pour un auteur de bande dessinée, plus l'imprévisibilité, la grâce, qui fait que d'album en album, il se réinvente. Bon, le premier G, c'est un tout petit peu primaire, mais dès le Lotus Bleu, on a l'impression qu'à chaque album, il fait un virage, il cherche autre chose. Il passe au double album avec une structuration de récit beaucoup plus grande. Il fait une auto-parodie avec les bijoux de la Castafiore, mais il a fait une tragédie classique avec Tintin au Tibet. C'est vraiment ça qui le rend unique.
Il y aura le passage
du
noir et blanc à la couleur, par exemple, mais c'est pas de la colorisation. C'est vraiment un travail artistique avec un soin extraordinaire apporté à la couleur qui sert le récit.
C'est un éternel insatisfait, au fond. C'est un homme de tempérament plutôt sombre, plutôt mélancolique, avec des grandes pannes dépressives, mais qui chaque fois rebondit pour aller plus loin. Envoyer Tintin sur la Lune, c'est la réponse d'Hergé aux années de dépression de l'après-guerre. Et là, il se cherche un truc fou, un défi.
Bruno Podalydès, en quoi il vous a inspiré dans votre travail de cinéaste?
Pour beaucoup de raisons, mais pour revenir par exemple aux insultes, aux injures d'Haddock, il y avait une censure à l'époque très forte, il pouvait pas de toute façon mettre de vraies injures, donc il avait une contrainte, et c'est pour ça que je pense qu'il a créé, qu'il a été, dans le cinéma on est constamment sous la contrainte, et on doit constamment trouver l'économie de moyens, et souvent je garde Hergé en tête, et même pour ça je cache la petite fusée de Tintin dans mes films, parce que c'est pour se souvenir de cette fusée qui est, si elle a 4 pied, elle est moche, si on lui enlève un pied c'est plus une fusée, il faut trouver la justesse du trait en permanence et dans le cinéma c'est la même chose. Ouais.
Il y a la maquette originelle de la fusée de Tintin, la fusée qui est exposée d'ailleurs au Grand Palais puisque Hergé a fait fabriquer une maquette spécialement avant de la dessiner dans son album Objectif Lune. Bruno Podalydès,
ça donne l'idée d'une 3D. Moi, je rêve d'un film que je ferai sans doute pas, mais en 3D parce que cette fusée, il l'a fait construire comme un décor décor de cinéma, et elle joue vraiment sous tous les sacs, ça se voit. Donc je pense que c'est un des films possibles de voir cette fusée dans les profondeurs infinies.
Oui, c'est une maquette écorchée en plus, elle est ouverte, et on en voit l'intérieur de cette fusée. Il y a une séquence formidable aussi qui est exposée au Grand Palais, c'est une vidéo d'une émission de Michel Drucker, où Hergé est invité en majesté. Il y a Yves Robert qui est là, le cinéaste, acteur et cinéaste, qui commente une planche d'Hergé en décrivant les ressorts plans cinématographiques, plan large, plan moyen, plan serré, américain. Plan américain, ellipse, rythme, récit, etc. Bruno Podalides, c'est quelque chose qui vous frappe évidemment chez Hergé.
Oui, j'ai entrepris même ce travail, album par album, de revoir les albums comme s'il s'agissait à chaque fois d'un petit film en analysant le découpage. Et j'ai encore découvert là dans l'exposition au Grand Palais, entre le crayonné et la mise à l'encre, un travail d'Hergé passionnant qui est celui de, comme je disais, d'économie de moyens et de soustraire. Donc on voit Haddock courir vers une passerelle et il n'a pas vu que l'avion n'était plus là. Et Hergé, dans le crayonné, a dessiné la chute de Haddock après la passerelle. Et dans la mise à l'encre, il a enlevé cette case-là. Donc on voit Haddock courir et après se faire soigner dans l'avion. Il y a une ellipse très drôle et qui est purement du montage, où on enlève des plans.
Et les ellipses sont constantes chez Hergé. Il a un art de l'ellipse tout à fait admirable. Là, c'est un bel exemple que vous citez. C'est dans Tintin au Tibet, justement. Oui.
Alors, on a un certain nombre d'appels d'auditeurs passionnés, admiratifs, amoureux de Tintin. Et puis aussi, un certain nombre de questions sur et la partie sombre et la partie noire de Hergé. Est-elle évoquée dans l'exposition? Il a collaboré, etc. Bon, beaucoup de choses comme ça. Oui. David qui nous appelle de Genève. Bonjour, David.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
C'est une réflexion qui appelle le commentaire de Monsieur Peter. À propos de Tintin au Congo, fait avant-guerre et rempli d'un racisme paternaliste typique de la Belgique de l'époque, je me demande comment se fait-il qu'on n'a pas plus critiqué les albums de Franquin des années 70. Reprenez le Gris-Gris de Nicolo Coba ou Tembo Tabou, Pirou et Fantasio en Afrique. L'image de l'Afrique et des Africains qui est donnée est infiniment plus raciste et date de bien après les indépendances. Comment se fait-il qu'il y ait eu tant de critiques et de débats sur l'album Tintin au Congo, et pas sur ces albums de Franquin, qui est un autre géant, et comment a-t-il pu faire des livres si réducteurs par rapport à la fille?
Alors, on parle de Franquin, du Franquin de Spirou, davantage que Franquin de Gaston Lagaffe. Benoît Peters.
C'est la rançon du succès. Je crois qu'Hergé a eu une place unique dans la bande dessinée franco-belge, très tôt, et donc quand on cherche une cible, on trouve Hergé. Et il est vrai que Tintin au Congo, dans la version noir et blanc, qu'on retrouve, qui est publié, c'est un document exceptionnel sur le colonialisme. Bien sûr. On peut faire un très bon cours sur les mentalités coloniales et la représentation coloniale. La version en couleur me gêne beaucoup plus, et je trouve qu'elle est critiquée à juste titre, parce qu'elle a été un peu édulcorée dans l'après-guerre, quand Hergé l'a redessinée. Mais du coup, elle est sans date, elle est sans inscription. Et je plaide depuis longtemps pour qu'on intègre quelques albums, quelques lignes, une citation d'Hergé simplement, qui reconnaissait lui-même que ça avait été fait sans voyager sur place, sans se documenter, avec tous les préjugés du temps.
On va l'écouter, Hergé, comme ça permettra d'entendre la voix d'Hergé, invitée d'une radioscopie de Jacques Chancel en 1979.
Alors je suis frappé par une tendance politique que vous aviez, qui peut-être n'est plus celle que vous avez aujourd'hui. Vous étiez particulièrement raciste à l'époque. Tintin chez les soviets, c'était l'anticommunisme primaire. Oui. Tintin au Congo, alors là, c'était petit noir. Et vous preniez pour un vrai blanc.
Oui, bien sûr. Mais je pense que je ne me singularisais pas. Enfin, je crois que tout le monde à l'époque était d'abord anticommuniste, ou plutôt, plus exactement, dans le cas du XXe siècle, anti-bolchevique, l'homme au couteau entre les dents.
C'était en 1929.
En 1929, n'oublions pas. Et quant au Congo, mais il allait de soi. Ça paraissait aller de soi que de toute éternité, les Noirs étaient faits pour servir les bons Blancs qui étaient là-bas. Enfin, nous envoyions d'ailleurs de bons missionnaires, des hôpitaux, des chemins de fer, que sais-je encore, tous les bienfaits, entre guillemets, de la civilisation. Donc j'étais colonialiste, comme tout le monde était colonialiste. Il y avait une loterie coloniale en Belgique, il y avait votre exposition coloniale à Paris. Tout ça allait de soi, semble-t-il.
En toute honnêteté.
En toute honnêteté, bien entendu.
Alors, ce qui est important, c'est de savoir ce que vous êtes aujourd'hui. Si vous avez changé.
Ah, mais évidemment.
Si vous êtes transformé. Ce sont les événements qui vous ont changé ou votre nature était différente?
Peut-être ma nature. Les événements m'ont fait changer. Enfin, puis j'ai évolué comme tout le monde évolue.
Tout le monde évolue, dit Hergé au micro de Jacques Chancel, oui.
Juste une toute petite remarque, dans les années 20 et 30, tout le monde n'était pas anticommuniste, il y avait des centaines de millions de communistes, et tout le monde n'était pas colonialiste, contrairement à ce que semble croire Hergé.
Oui, mais au petit 20e, qui était
ben
le...
Voilà. Qui était et en, petit en Belgique, 20e, évidemment, mais c'était pas tout le monde, le petit 20e.
En Belgique, le Congo était quand même... quelque chose de tellement énorme, un territoire bien 80 sûr. Fois plus grand que la Belgique, qui était la richesse, qui était l'appel permanent aux vocations, que les anticolonialistes se faisaient assez peu entendre. Je dois dire que les critiques sont venues très très tard.
Et puis il s'est moqué du colonialisme discrètement aussi dans le Congo, qu'on ne remarque pas. Vous parlez du changement entre le noir et blanc et la couleur. Dans le noir et blanc, il s'adresse aux petits noirs en leur disant « Votre patrie, la Belgique ». Je pense qu'il y a une ironie évidente d'Hergé à ce moment-là, et qu'il a enlevé ça en remplaçant par une leçon d'histoire dans la couleur. Et en fait, en voulant ranger les choses, je pense qu'on les aggrave.
Et puis, dès Tintin en Amérique, il prend la défense des Indiens qui sont spoliés. Il y a une page tout à fait admirable. Et puis, qu'on laisse à Hergé la liberté, même si sur un temps plus long, d'avoir évolué et de s'être dépris d'idées qui peuvent aujourd'hui nous paraître infâmes et qui le sont réellement, de même pour l'antisémitisme. Moi, ça m'exaspère d'entendre, de voir qu'on accroche à Hergé définitivement, alors que c'était un jeune homme de 22 ans, qu'on lui dénie le droit à l'évolution intellectuelle, à la prise de conscience. De même, dans Les Bijoux de la Castafiore, on voit Tintin qui prend conscience du sort infâme qui est fait aux gitans, qui est fait aux
gitans. Que Haddock défend, d'ailleurs.
Que Haddock défend. Qu'il accueille à Moulinsart.
Et petit à petit, on voit
Après un mouvement de répulsion au début, hein, ça sent pas très bon, dit-il.
Non, c'est pas les Roms qui sentent pas bon, c'est l'endroit où ils
sont.
Mais Tintin, lui, il a des préjugés et il va s'en déprendre, mais c'est fait subtilement. Hergé ne donne pas de leçons, c'est pas un discours militant.
Et si on compare avec les Dupont, de l'ordre vont dire à la fin, c'est bien notre chance, pour une fois que nous tenions des coupables, il faut qu'ils s'arrangent pour être innocents.
C'est
une phrase qui reste pleine d'actualité.
Quand on pense à la circulaire Hortefeux qui vient 50 ans après, on se dit qu'Hergé était en avance à ce moment-là.
Les gitans n'ont pas volé les bijoux de la Castafiore, c'est une affaire entendue. Un mot quand même sur ce que nos auditeurs appellent cette période sombre. Bon, il a eu quelques ennuis au sortir de la guerre. Pour avoir, alors c'est présent de façon spectaculaire dans l'exposition du Grand Palais, pour avoir continué à publier des strips de Tintin et Milou dans Le Soir.
Le Soir volé, comme disaient les résistants et les Belges.
Dans Le Soir, dans le grand quotidien belge, qui était
contrôlé par l'occupant.
Qui était contrôlé par l'occupant, mais c'est un strip au milieu d'une page culturelle. Alors la page est reproduite en grand format au Grand Palais.
Des petites annonces où plusieurs des plus belles aventures de Tintin sont parues en feuilleton. Il est vrai que le journal Le Soir était un journal assez indéfendable. Hergé pensait que son petit enclos, son minuscule strip, était une bulle d'évasion. Mais en réalité, s'il avait lu un peu le reste du journal, s'il avait voulu le lire et le voir, il aurait été choqué. Il a payé cette collaboration, qui est plutôt une collaboration économique que politique, d'une énorme crise dépressive et d'une difficulté à continuer Tintin après la guerre. On ne peut pas dire qu'Hergé s'en est sorti si bien que cela. Je crois que depuis la biographie de Pierre Assouline et celle que j'ai moi-même consacrée à Hergé, on sait à peu près tout sur ce dossier. Le dossier purement politique d'Hergé n'est pas très chargé. Mais ce n'est pas une guerre héroïque et Tintin, lui, heureusement, n'a pas été trop compromis dans les errements de son créateur.
Et sur la page du Soir qui est reproduite dans l'exposition du Grand Palais, c'est la page spectacle, on a les noms de Fernandel, de Maurice Chevalier qui se
Sacha
produisent
Guitry,
à Bruxelles, etc.
Ça agit un peu comme des petits bonhommes dans les marges, en fait.
Exactement. 9h05 sur Inter. Bonjour Augustin Trapenard.
Salut Patrick.
Vous avez une question pour nos invités?
Oui, bonjour à tous les trois. J'aime beaucoup le terme de tintinolatrie, moi. Vous en avez fait preuve ce matin. Et je crois que ça va être un livre que vous avez écrit.
C'était mon premier livre qui avait été publié grâce à Benoît, qui hélas est épuisé comme moi. Et introuvable aujourd'hui, c'est un incunable. Oui.
Alors quel est l'acte tintinolâtre le plus fou que vous ayez accompli?
Oh, ça aurait pu être de voler le fétiche à Rumbaya, mais c'est pas moi qui l'avais piqué. Peut-être.
Albert a déjà écrit à différentes instances pour faire renommer des avenues. L'avenue Pierre Ier de Serbie, par exemple, serait devenue l'avenue Autocar de Sildavi.
J'avais écrit à Chirac qui m'avait répondu, et récemment j'ai réécrit à Anne Hidalgo et ils m'ont répondu en disant que c'est pas possible, etc.
C'est dommage.
Donc je récidiverai. Mais j'avais écrit à la Scala de Milan, par exemple, pour demander au directeur les faits et geste de la Castafiore, si elle avait vraiment chanté, il m'a dit qu'elle n'avait jamais chanté à la Scala.
Quelle déception.
Non, je dis lui donc que la Castafiore était un castrat, c'était un rossignol napolitain et pas milanais, etc. etc.
Très bien.
La seule femme n'en était pas une.
Excellent. Boomerang dans un quart d'heure à peu près.
Avec une étoile, Augustin. Patrick, l'étoile de l'opéra Marie-Agnès Gillot qui triomphe en ce moment à Garnier et qui va nous faire vivre surtout une nuit blanche exceptionnelle samedi soir en tant que danseuse et chorégraphe. Le corps délivré, réfléchi, libéré, mais surtout en mouvement. Marie-Agnès Gillot est dans Boomerang, évidemment.
Merci à nos trois tintinophiles passionnés. Albert Algou, dictionnaire amoureux de Tintin chez Plon. Benoît Peters, je pense que ça se trouve encore, c'est une édition là que j'ai...
Ah bah oui,
il vient d'y avoir une réédition un peu actualisée.
Hergé, fils de Tintin, collection Chant Flammarion. Bruno Podalides, dont on attend la Bécassine. Ouais, pour quand alors?
Printemps prochain, je la tourne.
Ah, ça va être formidable.
L'exposition Hergé au Grand Palais à Paris, c'est jusqu'au 15 janvier prochain. Les catalogues sont à disposition aussi. On vous rappelle aussi la diffusion à partir du 24 octobre sur France Culture de la nouvelle adaptation radiophonique des Aventures de Tintin, le Lotus Bleu, coproduit par France Culture, Moulinsart et la Comédie Française, et avec l'Orchestre National de France. Et puis ne manquez pas, vendredi prochain, 7 octobre, Charline Van Acker, toute sa bande de Si tu écoutes, j'annule tout, à 17h en direct et en public du Grand Palais, à l'occasion de cette expo RG. L'entrée est libre dans la limite des places disponibles. Oh, mais c'est l'heure de morale, il est 9h moins 3.